Figurez-vous qu'on n'a plus le droit de sortir avec un voile dans la rue maintenant. Alors j'ai intitulé ce message « Longueurs et pointes » parce que nous le valons bien. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de longueur, mais qu'il y aura des pointes. Alors c'est d'autant plus facile d'en parler que ce n'est pas des sujets qui posent problème aujourd'hui dans notre Église. Donc, c'est très facile. Alors, c'est un passage qui est riche d'enseignements sur la vision de Dieu. Ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on va voir un petit peu de grec, un petit peu de réflexion et surtout des applications pratiques. Alors, je vous invite tout de suite à lire le texte de ce matin, donc 1 Corinthiens 11, versets 1 à 17. « Imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. » C'est Paul qui parle, bien sûr. « Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards en retenant les traditions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le sachiez. La tête de tout homme, c'est le Christ. La tête de la femme, c'est l'homme. Et la tête du Christ, c'est Dieu. » J'ai oublié de dire que j'ai choisi la traduction « Nouvelle Bible Second ». Tout homme qui prie ou qui parle en prophète, la tête couverte, fait honte à sa tête. Mais toute femme qui prie ou qui parle en prophétesse, la tête non couverte, fait honte à sa tête. C'est comme si elle était rasée. Si une femme ne se couvre pas, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Et s'il est choquant qu'une femme ait les cheveux coupés ou rasés, qu'elle se couvre. Un homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité à cause des anges. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. En effet, comme la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme naît par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en par vous-même. Convient-il qu'une femme prie Dieu sans être couverte d'un voile ? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas qu'il est déshonorant pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que pour la femme c'est une gloire, car déjà sa chevelure l'habille ? Mais si quelqu'un se plaît à ergoter, nous n'avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus. Si je ne vous félicite pas en formulant cette injonction, c'est que vous vous réunissez non pas pour le meilleur, mais pour le pire. Et puis là, Paul continue sur un autre sujet qui ne sera pas le thème de ce matin. En général, à la fin d'une lecture biblique, le peuple dit « Amen !» Et là, non, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. On trouve dans ce texte des expressions qui feraient bondir aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et pourtant, ce que nous allons voir, c'est que Paul a une vision de l'homme et de la femme extraordinaire. Et je vous propose de le voir ensemble ce matin. Pour ne pas se voiler la face. Mon propos n'est pas de défendre ce que dit Paul, car ce qu'il dit est inattaquable. Et j'ai choisi ce passage car nous sommes face à une difficulté par rapport à l'écriture, la Bible. On dit qu'elle est inspirée à 100%. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce genre de passage ? Ce matin, c'est donc un entraînement que je vous propose. Nous affirmons que nous aimons la Bible et ce qu'elle contient, alors vivons-le. Quelques remarques pour voir comment nous allons approcher ce passage. Si nous croyons que la Bible est la vérité, révélée, écrite, et si nous voulons appliquer cette parole à notre vie personnelle ou communautaire, nous devrons la comprendre et l'interpréter. Pas question de faire une lecture de la Bible à deux vitesses. Les choses qu'on garde, les choses qu'on jette. Tous les livres de la Bible ont été écrits pour des raisons précises, à des moments précis, dans des lieux précis et pour des personnes précises. Nous n'étions pas les premiers destinataires de la lettre que nous appelons 1 Corinthiens. Et pourtant, son contenu est parvenu jusqu'à nous et fait partie des textes reconnus comme inspirés. Comprendre et interpréter demande du travail. Ce travail est nécessaire si nous voulons être convaincus et que l'application concrète que Paul a dit aux Corinthiens au 1er siècle soit juste et adapté pour nous, les membres de l'église Saint-Martin Luther King à Nîmes au XXIe siècle. Alors que faire de ce passage ? Faire avaler la pilule ? S'en débarrasser en balayant sous le tapis ? On a toujours quatre possibilités face à un texte biblique. On peut l'annuler, le supprimer. Alors, dans le passé, il y a des théologiens qui ont essayé de prouver que ces versets, ils n'étaient pas écrits de la main de Paul, donc il ne fallait pas en tenir compte. Ça ne tient pas debout. On peut ignorer le passage. C'est souvent ce que nous faisons, inconsciemment ou volontairement. Hein, certains passages de la Bible nous dérangent, nous mettent en cause, et donc on les ignore, on les retire, on n'en tient pas compte. On peut aussi modifier le passage. C'est souvent le cas lorsqu'on n'en prend qu'une partie, et du coup on modifie le sens. Souvent ça nous arrange parce qu'on a une idée en tête et on cherche des passages bibliques pour prouver notre idée, pour appuyer notre argumentation. Je donne trois petits exemples. Ce passage pourrait être très bien utilisé par une mère de famille qui veut que son ado aille chez le coiffeur. Les machos pourraient s'en servir aussi pour dire « c'est moi le chef !» Les vendeurs de foulards auraient intérêt à y repenser. Voilà, modifier, c'est faire du texte un prétexte. C'est sortir une phrase de son contexte pour en faire un slogan ou une arme destructrice, une accusation. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste à comprendre le passage. Ça prend du temps. Ça nécessite de se poser les bonnes questions. Qui écrit? À qui ça s'adresse? Pourquoi? Comment? Etc. Pour la Bible, vous le savez, la règle, c'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi, c'est-à-dire qu'il faut comparer le texte avec les autres textes pour trouver le sens global et général. Cette lecture, elle s'inscrit aussi dans un contexte, celui de l'Église et de l'histoire de l'Église depuis plus de 20 siècles. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que les femmes n'ont pas toujours eu une place respectée, ni flatteuse, ni même enviable. Ça fait référence à des problèmes, des souffrances, des incompréhensions, du rejet. On pourrait même dire une forme de racisme. Et en cela, l'Église reste malheureusement un miroir ou un reflet de la société humaine déchue. Et selon les époques, on n'y voit pas beaucoup de différence ou de restauration. Ce problème n'est pas nouveau. Il y a un homme, Jacques Ellul, un Français, qui a dépeint cela de manière très précise dans son livre « La subversion du christianisme ». C'est un livre passionnant que je vous recommande. Alors reprenons. Qui c'est qui écrit? C'est Paul. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de bien. Et il a écrit la moitié du Nouveau Testament quand même. C'est quelqu'un de sûr et de fiable. Donc on va partir du principe que son propos est édifiant. Et il faut comprendre ce passage dans son contexte. À partir du chapitre 11, Paul aborde un grand sujet qu'il développe jusqu'au chapitre 14. C'est les erreurs à rectifier chez les croyants de Corinthe quand ils se rassemblent pour leur culte. On l'a lu, hein, à la fin du chapitre, de ce qu'on a lu. Hein. Quand vous réunissez, ce n'est pas pour devenir meilleur, c'est pour devenir pire. Bon, on retrouve Paul hein, qui attaque ses amis les Corinthiens. Donc ce que je vous propose ce matin, c'est dans le petit passage qu'on a lu, c'est d'identifier les erreurs que Paul avait détectées chez les Corinthiens, de les comprendre et de voir en quoi elles nous parlent 2000 ans après. Ça vous va? Vous acceptez de venir avec moi ce matin? Alors on commence par le verset 2. Et là, grande surprise, Paul félicite les Corinthiens. Waouh, c'est surprenant et ça mérite d'être relevé parce que c'est vraiment inattendu. Qu'est-ce que les Corinthiens ont fait que Paul trouve, approuve et pourquoi il les félicite? Il leur dit quoi? Vous conservez les traditions que je vous ai enseignées. Alors, on n'aime pas trop le mot tradition hein, dans les milieux protestants, évangéliques. Ça fait référence à tellement de choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de Paul? Paul se sert de ce mot pour décrire tous les enseignements qu'il faut maintenir, ceux qui doivent se perpétuer de génération en génération dans l'Église. Il dit ce qu'il a reçu de Christ lui-même dans un autre passage. Hein, voici ce que j'ai reçu de Christ. Alors le problème, c'est qu'il les félicite de maintenir les traditions, les bons enseignements, mais il ne dit pas lesquels. Hein, c'est dommage, nous on aurait bien aimé qu'ils disent lesquels les Corinthiens maintiennent. Mais alors c'est simple, on le découvre dans la suite, c'est ce dont il parle. Il félicite les Corinthiens car ils ont maintenant la bonne manière de concevoir et de vivre les rassemblements des croyants, leur culte. Alors ça va paraître bizarre pour nous au XXIe siècle. Il félicite les croyants de Corinthe car ils continuent à se rassembler en église, hommes et femmes ensemble. Paul démarre le chapitre en les félicitant. Et vous avez vu, ça ne dure pas longtemps puisque 17 versets après, il leur dit maintenant, je ne vous félicite plus. Donc ce que Paul félicite, c'est que les Corinthiens se retrouvent entre eux, hommes et femmes ensemble, conformément à la nouvelle manière de faire que l'Évangile apporte. Alors c'est totalement contraire à ce qui se passait à l'époque. À la synagogue des Juifs, oui, il y avait les hommes et les femmes, mais les femmes séparées, et elles n'avaient surtout pas la parole. Et c'est surtout contraire à ce qui se passait dans l'Empire romain et chez les Grecs. Les affaires publiques, les rassemblements publics se faisaient uniquement avec les hommes, et les femmes en étaient exclues. On comprend donc que Paul félicite les Corinthiens de maintenir la tradition de l'Évangile. Quelque chose de nouveau. Tout d'abord, la communauté se rassemble avec hommes et femmes confondus, sans distinction. Tout le monde a le droit d'être présent, à l'inverse de la synagogue ou de l'Empire romain. Chacun est le bienvenu, la bienvenue. Le second point, c'est que tout le monde a le droit de participer, et de manière égale. Dans l'Église, selon la tradition de Paul, les femmes ont leur place et elles ont le droit de prendre la parole au sein du culte. Une femme peut prophétiser et prier dans la communauté. Alors après, il dit à condition qu'elle se soumette à un élément vestimentaire, on en parlera tout à l'heure. Ici, Paul donne le champ libre aux femmes pour prier et prophétiser en public comme les hommes. Prier, c'est prier à voix haute, c'est participer, et Paul y invite les femmes. Prophétiser, on pourrait dire que c'est un cran de plus dans le niveau de participation. Paul le développe plus tard dans les chapitres 12 et 14. Prophétiser, c'est ultra important, c'est fournir les paroles de Dieu, proposer à l'Assemblée non seulement un message provenant de Dieu, mais un message qui réconforte, qui exhorte, qui encourage, qui stimule, qui édifie, qui construit. Celui qui prophétise édifie l'Église. Et Paul félicite les Corinthiens, car leur rassemblement permettait aux hommes comme aux femmes de faire tout cela. Alors, vous connaissez, hein, et on a eu un message sur 1 Corinthiens 12 qui dit clairement que tous sont acteurs et que tous ont les mêmes dons et ont accès aux mêmes services. Donc la tradition que Paul félicite chez les Corinthiens, c'est qu'ils continuent à vivre, malgré leur société qui fait l'inverse, la libre et légale participation des hommes et des femmes dans les cultes. Alors, Paul était vraiment, et l'Évangile était vraiment à contre-courant de sa société. Et j'ai peur que ce soit aussi un petit peu à contre-courant de notre société, mais pas pour les mêmes raisons. Alors, juste après les félicitations, Paul attaque maintenant les erreurs. Je veux cependant que vous le sachiez. Ah, on retrouve le Paul du début de la lettre. Et là, Paul enchaîne une succession d'expressions fortes. L'homme, chef de la femme. Aïe, ça pique, hein ? La femme non voilée déshonore son chef. La femme, gloire de l'homme. La femme créée à cause de l'homme. La femme tirée de l'homme. La femme doit porter le voile en soumission. Alors je rappelle que le jet de tomate est interdit, et ce n'est pas encore la saison. En lisant ça, on pourrait croire que Paul déclare qu'il y a un ascendant de l'homme sur la femme. On a l'impression que ça va dans ce sens. Mais c'est parce que on est préformaté. On oublie de lire avec le même intérêt tous ces passages, tous les versets qui contrebalancent cette fausse impression. L'homme aussi, s'il prie d'une certaine manière, il déshonore son chef. L'homme vient de la femme. L'homme existe par la femme. Ça va dans les deux sens. On sent que Paul veut rétablir un lien entre les hommes et les femmes. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais faire quelques remarques et m'attaquer à quelques-unes des fausses compréhensions qui ont été tirées de ce verset. Des démarrons par l'expression. Déjà, vous avez vu, il y a un problème de traduction. Pour ceux qui ont leur Bible ou leur téléphone portable avec la Bible dessus, vous avez vu qu'en général, ce verset, on ne trouve pas le mot « tête » comme ce qui est affiché, hein, mais on trouve le mot « chef ». Et donc, on a trois problèmes. Un problème de comparaison, un problème de situation et un problème de traduction. On commence par le problème de comparaison. La formulation, elle est forte. Le chef, c'est le commandant. Le chef décide, il tranche au travail. Si je vais voir mon chef et qu'il me dit « tu vas faire ça », pas question que je lui dise « ah, je ne sais pas, je n'ai pas forcément envie, ou je le ferai plus tard hein ». Ça ne marche pas, ça. Et cette expression dans l'Église, elle fait référence à du vécu et la plupart du temps de grandes souffrances. Il y a le chef d'un côté et celui qui obéit de l'autre. Mais il y a une comparaison. L'homme est le chef de la femme comme Dieu est le chef de Christ. Cette comparaison est écrite par Paul et elle interdit de placer un rapport inégal entre l'homme et la femme. Oui, car Dieu et Christ sont égaux. Christ n'est pas inférieur à Dieu. Christ n'est pas le serviteur, le larbin de Dieu. Christ et Dieu, ils sont égaux. L'homme et la femme, de même que Dieu et Christ, cela interdit de mettre une supériorité entre les deux, car ils sont égaux. Donc Paul ne veut pas dire autre chose que ça, ils sont égaux, de même que Dieu et Christ sont égaux. Deuxième problème, c'est la situation. Certaines interprétations indiquent que cela concerne les maris et les femmes, uniquement. Alors, Paul a déjà passé tout le chapitre 7 à donner aux Corinthiens sa vision sur le mariage. S'il avait voulu donner une prescription particulière entre mari et femme, il l'aurait fait à ce moment-là. Et justement, dans le chapitre 7, qu'est-ce qu'on lit ? Que pour Paul, le mariage invite à la réciprocité entre les époux. Il n'y en a pas un qui domine sur l'autre, mais chacun est l'égal l'un de l'autre. Les mêmes droits, les mêmes devoirs. Paul utilise la même formulation dans Éphésiens 5, 22-29. Marie, aimez vos femmes. Il dit, Christ est la tête de l'homme, le mari est la tête de la femme. Il s'est donné lui-même, il rajoute. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même. C'est fort ça, hein ? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné, il s'est livré lui-même. Vous voyez que le standard de Paul pour les maris n'est pas de devenir un chef commandant, mais d'être un serviteur. On pourrait dire un chevalier servant, ça fait plus glamour. Hein, mais qu'il soit prêt à tout donner de lui-même pour le bien de son épouse. Alors, peut-être il y en a qui se disent « Ah, je suis en train de perdre quelque chose ce matin ». Peut-être ces deux premiers points suscitent des réactions qui risquent d'être enflammées à midi ou ce soir sur l'oreiller. Je rappelle que le service après-vente des prédications est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Venons-en à la troisième difficulté, la traduction. La majorité de nos traductions en français datent du 19e siècle ou du début du 20e. Et à cette époque-là, le mot « chef », ça avait le sens de « tête ». On a gardé un mot hein, en français, le « couvre-chef », c'est le chapeau. Le mot traduit par « chef », c'est le mot « képhalé » en grec. Vous connaissez ce mot, hein ? Ça donne les céphalées, la céphalite, quand on a mal à la tête. On connaît aussi les céphalopodes, vous savez, c'est les pieuvres, les calamars. Hein, ceux qui ont le cerveau dans le pied, céphalopode. En grec, le mot pour chef, ce n'est pas képhalé, c'est archone qui a donné le mot monarchie, un seul chef, ou oligarchie, un petit groupe de chefs. Et ce mot-là, archone, il n'est pas dans notre texte. Tout le monde sait ce que c'est la tête, c'est la partie située au-dessus du cou. Alors pourquoi un problème de traduction ? Parce que le mot képhalé, il est utilisé dans les versets 4, 5, 7 et 10. Dans le verset 4, il a été traduit par chef. Dans les autres versets, par tête. Alors pourquoi, les amis ? Pourquoi le même mot est-il traduit avec deux sens différents dans le même texte, à quelques versets d'intervalle ? Y aurait-il pas un préjugé ou un choix délibéré chez les traducteurs ? C'est pas improbable. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Pour tous ceux qui sont amoureux de la Bible, je vous invite à avoir une traduction récente, pas une traduction qui date de 1910 ou de 1850. Je fais référence aux versions Second qu'on aime tant et Darby. Elles sont intéressantes. Il y a un sens historique, etc. Il y a une recherche. Mais ce n'est pas la même langue que la nôtre. Ça a changé. Les mots ont changé. Ils ont évolué. Et tout cela, ça nous pousse à faire des contresens. En France, nous avons la chance d'avoir de nombreuses versions récentes d'excellente qualité. Je vais en citer quelques-unes, je ne peux pas toutes les dire, mais il y a la Taub révisée, il y a la Semeur, il y a la Parole de vie, il y a la Nouvelle Bible Second, etc. Change ta Bible traduite il y a 100 ans par une Bible traduite il y a 10 ans. Je ferme la parenthèse. Donc la traduction de ce texte, c'est Christ est la tête de l'homme, l'homme est la tête de la femme et Dieu est la tête de Christ. Alors vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose, la tête dans le corps, c'est bien elle qui commande. Eh bien non, si vous avez mal au genou, le corps ne va pas pouvoir marcher et la tête, elle ne peut rien faire dans ces cas-là. Alors quelle est l'idée de Paul? L'idée de tête, ce n'est pas dans le commandement, mais c'est dans le commencement. La tête, c'est le principe, c'est l'origine. Certains théologiens proposent l'interprétation dans ce sens. C'est l'idée de l'origine, de la provenance. Et là, ce sens-là, ça éclaire le texte et ça relie ce verset à la suite. Christ est l'origine, la provenance de l'homme. L'homme est l'origine, la provenance de la femme. Dieu est l'origine, la provenance de Christ. Et là, ça a du sens avec la suite. Christ a son origine en Dieu. Il a été envoyé de Dieu tout en étant son égal. Et Paul le réaffirme après, au verset 8, « La femme a été tirée de l'homme ». C'est l'origine. Paul rappelle l'histoire d'Adam et Ève, où Dieu créa Adam, puis tira Ève. Et puis chaque fois, Paul, dans ce passage, il réaffirme la réciprocité dans le verset 11 et 12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Réciprocité. Et tout comme la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme. Réciprocité. Que peut-on en conclure? Que veut dire Paul? Eh bien, hommes et femmes sont égaux, comme Christ et Dieu sont égaux, mais ils sont différents. Leur origine n'est pas la même, et donc leur constitution n'est pas la même, on pourrait dire. Adam a été tiré de l'argile et du souffle divin, et la femme, Ève, a été tirée d'Adam. Alors, pourquoi rappeler ça? Déjà, je voudrais ouvrir une nouvelle petite parenthèse. On trouve beaucoup dans la littérature chrétienne, y compris récente, des théories ou des mythologies, ou des affirmations qui prétendent que lorsque Dieu avait créé Adam, au chapitre 1 de la Genèse, il était hermaphrodite. Il avait les deux sexes, masculin et féminin. Et qu'ensuite, lorsque Dieu a endormi Adam pour séparer Ève, il aurait séparé les deux sexes. Mais ça ne tient pas debout. Le texte de la Genèse dit « Hommes et femmes, il les créa ». Il n'est pas marqué « homme et femme, il le créa ». Et donc, je ferme la parenthèse. La Genèse explique que Dieu a créé l'humanité avec deux genres égaux, deux différences, homme et femme, mâle et femelle. Dans le texte original, c'est Zarar Nekeva. La Genèse ajoute « Dieu créa l'humain à son image, à sa ressemblance. Homme et femme, il les créa ». On comprend donc que l'origine du féminin est en Dieu, de même que l'origine du masculin est en Dieu. Dieu, lui, est complet, mais l'humanité reflète de manière incomplète l'image de Dieu. L'un reflète le côté féminin, l'autre reflète le côté masculin. Dieu est la source, l'origine du féminin, comme il est la source, l'origine du masculin. Les deux tirent leur existence de Dieu. Que dit Paul? Ne confondez pas l'homme et la femme. Ils sont égaux mais différents. Ils ont autant de valeur l'un que l'autre. Ils ont la même origine, la même dignité. Le masculin a autant de valeur que le féminin. Ils ont la même origine, le même honneur. C'est la première application de ce texte. Est-ce que chacun de nous, on est en phase avec cette déclaration? Es-tu persuadé que le féminin et le masculin ont la même valeur, la même dignité, le même honneur? « Alors nous allons voir maintenant comment la suite du texte colore cette première déclaration et quelles autres applications nous pouvons en tirer. Juste après, on change un peu de registre. Hein, Paul nous rappelle la création, Adam et Ève, tout ça. On est dans les trucs un peu élevés. Puis là, paf, on tombe sur la longueur des cheveux. Paul parle de la longueur des cheveux et de comment faire si on n'a pas de cheveux. La phrase la plus importante que Paul propose dans ces versets 13 à 16, elle est à la fin. C'est une question ouverte. Jugez-en vous-même. Est-ce convenable ? C'est une question qui est posée à chacun de nous. Et je crois même pouvoir dire que c'est une question qui est posée à chaque époque, à chaque culture. Paul affirme ici des choses qui contredisent les pratiques de son époque et même de l'Ancien Testament. Longueur des cheveux et se couvrir la tête ou pas pour prier. Pour les hommes, c'est contraire à la pratique des Juifs. Un Juif, un homme juif, prie la tête couverte. Et Paul dit, c'est honteux pour lui. Dans l'Ancien Testament, il y avait le vœu de Naziréa. C'est-à-dire, c'est des gens qui faisaient un vœu vis-à-vis de Dieu. Et pour concrétiser ce vœu, pendant toute la durée du vœu, ils ne devaient pas se couper les cheveux ni la barbe. Vous imaginez ce que... Et c'est contraire à ce que Paul dit ici. De même pour les femmes, il faut qu'elles aient les cheveux longs. S'ils sont courts ou rasés, il faut qu'elles portent un voile. Là encore, ces interdictions, elles ne proviennent pas de l'Ancien Testament. La longueur des cheveux n'est pas une prescription dans l'Ancien Testament, ni dans la juive, pas plus que de se couvrir la tête. Paul parle des habitudes, des conventions sociales de son époque. C'était des choses qui concernaient les Corinthiens, et particulièrement ceux de l'Empire romain. Dans cet empire, vous savez qu'il y avait des hommes libres, et il y avait aussi des esclaves. Et la condition entre les deux est très, très différente. Dans cet empire, les femmes libres, c'est-à-dire qui n'étaient pas esclaves, sortaient avec un foulard sur la tête. Les esclaves avaient les cheveux découverts. On reconnaissait de loin le statut d'une femme à sa coiffe. Les cheveux non couverts étaient ceux d'une esclave, les cheveux couverts d'un foulard, ceux d'une femme libre. On sait que Corinthe possédait aussi de nombreux cultes à des idoles. Paul en parle juste avant dans le chapitre 10. Parmi ces cultes idolâtres, vous l'avez entendu plein de fois, de nombreux prêtres et prêtresses, souvent des prostituées sacrées, qui avaient des coutumes particulières. Certaines femmes se rasaient les cheveux pour ressembler à des hommes. Certains hommes se faisaient pousser les cheveux pour ressembler à des femmes dans ces cultes idolâtres. Et on sait aussi que dans l'Empire romain, il y avait de nombreuses contrefaçons des genres masculins et féminins. Ces problèmes-là étaient particulièrement visibles et pertinents à Corinthe. Les prêtresses étaient souvent des esclaves, rasées et donc sans voile ni foulard. Paul dit aux Corinthiens et aux Corinthiennes, attention, ne vous conformez pas à ce que vous voyez dans les autres cultes idolâtres ou dans votre société de l'Empire romain. Ne confondez pas les genres masculins et féminins, mais au contraire, réhabitez-les. Si une femme a les cheveux rasés, peut-être c'est une ancienne prostituée qui vient à l'église, qu'elle retrouve sa féminité en laissant pousser les cheveux. Et en attendant que ça pousse, qu'elle mette un voile sur la tête. C'est assez actuel. À la fin de la guerre 39-45, certaines femmes ont eu la tête rasée. Vous savez pourquoi ? Souvent, elles se couvraient la tête pour le masquer. Encore de nos jours, il y a encore peu d'années, une femme qui avait un traitement pour le cancer et qui perdait ses cheveux se mettait un foulard pour garder son apparence, sa pudeur, son honneur, sa féminité. Bon, maintenant, la Sécu aide à acheter une perruque, mais c'est le même principe. Paul dit aux hommes de Corinthe, de la même manière que s'ils avaient les cheveux longs parce qu'ils étaient soit peut-être d'anciens prêtres des cultes païens, soit influencés par les pratiques bizarres de l'Empire romain, coupez-vous les cheveux, redevenez masculin dans votre apparence. On comprend que pour le contexte des Corinthiens, Paul leur Alors rappelle que c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs et que c'est une honte pour la femme d'avoir les cheveux courts ou rasés. Parce que, aux yeux des gens de leur époque, ils ne respectaient pas leur genre, mais ils le dénaturaient. Alors que peut-on tirer comme enseignement ? Paul invite chacun à respecter son genre tel qu'il l'a reçu, masculin ou féminin. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Mais c'est très fort. Paul invite à respecter le genre masculin et le genre féminin. Ce message de Paul reste très actuel de nos jours. Il y a plein de choses qu'on ne choisit pas dans la vie. Sa famille, son prénom et son genre. Aujourd'hui, on a la théorie du genre dans notre société qui dit que justement chacun pourrait le choisir. Il paraît que dans certains États des États-Unis, quand vous allez aux toilettes, il n'y a pas deux figurines, il y en a trois. Il y a l'homme, la femme, et puis le troisième, c'est un truc moitié jupe, moitié short. Et Paul dit, ne confondez pas, il y a égalité, mais il y a différence. Respectez, réhabilitez votre genre. Soyez bien dans vos baskets. La femme n'est pas un homme, et un homme n'est pas une femme, dit Paul. Alors je vous invite à prendre quelques instants, chacun de nous, pour nous poser la question. Est-ce que tu es en phase avec ton genre ? Ou est-ce que tu es en décalage avec ton genre ? Est-ce que tu es en paix ? Ou est-ce que tu as besoin d'être réconcilié avec le fait d'être un homme ou une femme ? C'est Dieu qui est la source, l'origine du masculin comme du féminin. Et il peut t'apporter son réconfort, sa restauration. Reçois son aide, son soutien. Donc la vision biblique, la pensée de Dieu, c'est que les hommes soient masculins et que les femmes soient féminines. Que personne ne perde ou n'affaiblisse son genre, que tous soient bien, à l'aise dans leur genre. Vous voyez, c'est très différent comme vision du monde. Alors parlons du foulard maintenant. Paul dit, quand vous réunissez, les femmes esclaves peuvent se mettre un foulard pour qu'elles soient au même niveau de dignité qu'une femme libre. Oui, c'est ça sa demande. De porter un voile. Que fait Paul ? Par amour et par l'évangile, il veut restaurer momentanément le temps du culte, la dignité de la femme esclave ou prostituée. Le foulard qu'il demande, ce n'est pas pour l'enfermer ou assujettir la femme qui doit le porter, mais c'est pour la libérer, pour affirmer sa dignité. Alors c'est un court instant dans la semaine, celui du culte. Et Paul dit, l'esclave a le droit de prier, de prophétiser, au milieu des autres. Alors pourquoi se couvrir la tête ? Qu'elle soit comme une femme libre, pour pas qu'on atténue sa prière ou qu'on atténue sa parole prophétique ou d'encouragement, sous prétexte qu'elle est esclave. Donc on comprend que c'est une mesure de féminité, de pudeur, de manière passagère, pour que la femme rasée ou esclave retrouve sa dignité, sa féminité. Alors vous voyez bien le débat dans ce passage. Ce n'est pas de porter le voile pour je ne sais quelle raison d'ascendance ou d'être plus efficace dans le combat spirituel ou je ne sais pas toutes les théories qu'on peut avoir entendues. Ça ne sort pas de ce texte. Quand Paul dit qu'il faut que la femme porte sur sa tête la marque de son autorité, il n'est pas question de voile. Le voile, c'est qu'au verset 15 dont il en est parlé. Avant, dans les traductions, ils en parlent, mais ça y est pas. Les mots utilisés, c'est la tête couverte ou découverte. Les théologiens de qualité indiquent que l'autorité dont il est question, c'est pas celle de je sais pas qui serait supérieure à la femme. Non. Dans ce texte, c'est la propre autorité, de la propre dignité de la femme dont il s'agit. La femme esclave avait une dignité moindre que la femme libre. Et c'est ce que Paul veut restaurer. Chaque femme, qu'elle soit esclave ou libre, pouvait prier, prophétiser dans le même niveau de dignité. Vous imaginez, si on se transportait là quelques instants dans le culte à Corinthe, on débarque, on comprend qu'il y a les femmes libres qui ont des chapeaux, des foulards ou je ne sais pas quoi, et qu'il y a des esclaves, et ils disent, tiens, il y a une esclave qui a prophétisé ce matin. Vous imaginez ? c'est pas joli joli. Hein. Moi, je pense qu'on ne pourrait pas s'empêcher d'avoir ce genre de pensée. Dans d'autres spiritualités, le voile n'est pas fait pour retrouver la féminité ou la dignité, mais pour la masquer ou la bafouer. Vous comprenez la différence avec Paul ? Lui, il restaure la féminité, la dignité de la personne, dans un cas très très précis. Lorsqu'une femme esclave prie ou prophétise, elle a autant d'autorité, de dignité, de gloire qu'une femme libre ou qu'un homme. Et pour éviter que certains fassent une dépréciation, qu'elle mette le même signe distinctif qu'une femme libre. Donc on a là une application très forte de Paul. Paul rappelle que l'évangile apporte aussi une nouvelle relation entre les personnes. Dans la société, certaines catégories de personnes sont discriminées ou ont moins de dignité que les autres. Dans l'Église, là où l'évangile est actif, il ne faut pas que ça soit pareil. Au contraire, chacun dans l'Église a la même dignité. Et si une différence est visible, on a moyen de la réparer ou de la gommer. Chacun a la même dignité pour servir Dieu et les autres. Paul cherche à restaurer chaque personne. Alors de nos jours, le statut d'esclave n'existe pas en France. Et c'est tant mieux. Mais il y a d'autres domaines qu'il faut regarder de près, dans lesquels la considération apportée à chaque personne dépend de certains facteurs. Dans le Nouveau Testament, on voit plusieurs fois l'invitation de ne pas donner de considération à certains groupes plutôt qu'à d'autres. Les esclaves et les hommes libres, les riches et les pauvres, les juifs et les non-juifs. Hein, on trouve tout un tas de domaines sur lesquels le Nouveau Testament nous met en alerte. De nos jours, on peut aussi élargir le domaine. On vient juste de célébrer les 50 ans de la mort de Martin Luther King. On sait que la couleur de peau, ça peut être aussi un critère. Et il y a beaucoup de souffrance aussi et d'incompréhension là-dessus. Le genre masculin ou féminin, le pays d'origine. Rien ne permet de donner des degrés de dignité différents dans l'identité de la personne, ni dans son service. Alors dans notre Église, vivons-nous cette réalité de manière paisible ? Dans quel domaine pouvons-nous recevoir les félicitations de Paul ? Et dans quel domaine pouvons-nous faire des progrès ? Oui, nous avons encore des progrès à faire. Soyons courageux et mettons-nous en marche, si vous êtes d'accord. Alors, revenons aux cheveux longs et aux cheveux courts. Ça concerne tout le monde. Comment être masculin ou féminin dans sa coiffure, sa tenue vestimentaire ? Chacun sa réponse. Mais Paul donne le principe, ne confondez pas, ne masquez pas votre genre. La longueur des cheveux, à notre époque, n'a pas le même impact qu'à l'époque de Paul. Un homme peut être très masculin avec des cheveux longs. Une femme avec les cheveux courts peut être très féminine. Et Paul pose la bonne question. Jugez-en vous-même. Ce n'est pas aux autres de vous donner la réponse. C'est à vous. Jugez de ce qui est convenable et de ce qui ne l'est pas. À plusieurs reprises, Paul dit aux Corinthiens, attention, votre comportement ressemble tellement à ceux des non-croyants que ça prête à confusion. Dans ce domaine-là, il leur dit aussi, faites attention, réhabilitez les genres masculins et féminins. Ne les confondons pas, respectez-les, mettez-les en valeur dans votre comportement, dans votre tenue, même dans votre look. Alors le look, ça dépend beaucoup de la culture, du style, hein. Bien sûr qu'on est libre de se coiffer, de s'habiller comme on veut, selon nos convictions, notre style, notre âge. La question qui se pose et que Paul nous pose, c'est est-ce que ton look reflète la gloire de Dieu ? Alors on n'est pas des gens religieux, il n'y a pas de code dans notre Église. En tout cas, j'espère. Paul invite à ce que chacun se pose la question. Mais il dit aussi qu'il faut tenir compte des autres. Les autres te regardent. Il ne faut pas que ça soit dans la confusion pour les autres. Imaginez un homme qui arrive en maillot de bain au culte. Il est bien en maillot de bain, mais ce n'est pas sa place. Sa place, c'est à la piscine ou à la plage. Imaginez une femme qui arrive en tenue échancrée pour faire son jogging d'été. Ça va, c'est convenable, mais pas au culte. Sur le terrain de sport ou à la salle de gym, oui. Hein, on ne peut pas prétendre être libre et faire ce que l'on veut. Il faut aussi intégrer le regard des autres, les codes, les usages, ce qui est convenable, ce qui ne l'est pas, ce qui choque, ce qui ne choque pas, selon les situations. Alors, dans les églises, c'est très douloureux ce point-là, parce qu'on a mesuré la longueur des cheveux, et à quelques centimètres, on a exclu, on a jugé, on a critiqué, on a rejeté. Et ça n'a pas concerné que les cheveux. Des fois, c'était les jupes aussi. Bon, la longueur de la jupe. Hein ? On a beaucoup coupé les cheveux en quatre. Mais beaucoup de souffrance, d'incompréhension, et je vais rajouter même de méchanceté, de haine, véhiculée à partir d'une mauvaise interprétation de ce passage. Je ne parle même pas des styles vestimentaires imposés par tel ou tel groupe, hein, pour que le monde suive le goût de telle ou telle personne. Non. Je crois qu'il y a là une invitation pour tous ceux qui ont vécu différentes choses, différentes souffrances, incompréhensions, à recevoir déjà une consolation et puis à accorder un pardon. Alors revenons à l'idée très courante de l'homme qui serait le chef de la femme. Juste un instant. Adam devait protéger Ève et il ne l'a pas fait. Avec un courage immense, il a laissé manger le fruit interdit. Et comme il a vu qu'Ève était toujours vivante, il en a pris aussi. Il aurait dû intervenir, la protéger, mais il ne l'a pas fait. Et quand Dieu sort le soir dans la brise du soir pour les rencontrer, Adam accuse Ève, c'est elle. Bravo Adam. On voit que notre complice, pour nous les hommes, a fait preuve de beaucoup de lâcheté et d'abandon envers Ève. Juste deux minutes avant, il l'avait appelée « chair de ma chair ». Et à l'inverse, Paul rappelle que le Christ, comme un époux amoureux, est prêt à tout donner, y compris sa vie. Non seulement il est prêt, mais il l'a fait, pour le bien de son épouse. Quelle différence ! Et on peut redire, ben ça c'était un vrai homme quand même. Vous voyez pourquoi il est avantageux de confier sa vie tout entière au Christ. Lui, il est prêt à tout donner pour vous défendre et pour votre bien-être, par amour. Il l'a fait et il est encore prêt à le faire. Depuis Adam et Ève, il demeure une lutte entre les genres. Ils ont été créés égaux et heureux, chacun dans son genre, de même dignité, de même honneur, de même valeur. La relation a été entachée, cassée. Et de nos jours encore, le masculin et le féminin sont en confrontation. Et je crois qu'on a utilisé ce passage de 1 Corinthiens 11 pour perpétuer dans l'Église du Christ cette haine et cette guerre. C'est une guerre insidieuse. L'homme, spécialiste de l'égoïsme, cherche à affirmer une domination. Et la femme cherche à s'en extraire. Chacun a ses armes et on s'entretue. On continue à accuser l'autre. Dans une autre religion, on voile la femme parce qu'elle suscite chez l'homme trop de désirs qui ne sauraient pas se maîtriser. C'est sa faute à elle. Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il vaudrait mieux que tu le retires. Dans nos sociétés actuelles, le genre, c'est devenu agressif. On milite pour, on milite contre. Regardez les fémènes. Regardez les hordes de motards. Le genre peut aussi devenir tyrannique dans notre société. Regardez l'usage de la femme dans les pubs. C'est souvent une affiche sexy qui impose un standard inatteignable pour la majorité des femmes. C'est pareil pour les messieurs. Hein, on voit plus en plus de messieurs dénudés dans les pubs. C'est des mecs hyper bodybuildés, hein, qui donnent des complexes à tous les autres gars. Il y a un autre aspect dans la société, c'est que pour éviter la guerre entre masculin et féminin, on essaie de les minimiser. On réduit les différences. On devient asexué. C'est ça ? Alors ça peut prendre plein de formes différentes. On reste tel quel, on ne cherche plus la relation avec l'autre sexe, on reste amis sans s'engager. C'est vrai que c'est un risque de s'engager dans une relation amoureuse, mais ça vaut le coup. Donc les femmes vont masquer leur féminité, les hommes leur masculinité, on estompe, on cherche un facteur commun, hein, on gomme les différences. Égalité, oui, mais avec différence, oui. Différence, oui, mais sans agressivité. Voilà le témoignage que nous pouvons apporter dans notre société concernant le genre. Paul nous dit que c'est une manière de refléter notre honneur et de refléter la gloire de Dieu au sein de la société. Alors, la fin est arrivée, la fin est proche. Pour finir, soyons courageux avec les Écritures, sans ignorer ou modifier les passages qui nous gênent, mais cherchons à les comprendre. Et vous voyez, on peut en tirer des principes pour orienter notre vie. Même les textes compliqués au premier abord sont riches et utiles. Alors il faut faire l'effort de ne pas plaquer nos idées préconçues, mais d'écouter le texte. Et c'est long et fatigant, mais ça vaut le coup. Et c'est comme ça que Dieu nous parle. C'est comme ça que nous appliquons la parole de Dieu à nos vies, à nos situations, sans en faire des slogans ou des recettes toutes faites, mais plutôt en visant la maturité et la sagesse, en regardant ce qu'il y a au fond et pas que à la surface. Les genres masculins et féminins ont perdu quelque chose dans notre société. C'est une forme de tendresse, une forme de pudeur, une forme de noblesse. Ça concerne tous les hommes, mariés ou célibataires, comme toutes les femmes mariées ou célibataires. Nous sommes tous invités à retrouver cette noblesse, cette pudeur, cette tendresse dans notre genre. Alors le curseur entre masculin et féminin, c'est de l'ordre de notre choix personnel, mais aussi en tenant compte des autres, des styles, des codes, sans tomber ni dans le choquant, ni dans le légalisme. Soyons animés du même esprit que Paul lorsqu'il cherche à réhabiliter l'honneur et la dignité de la personne au sein de l'Église. Accueillons notre genre et le genre des autres dans la fidélité à la pensée de Dieu, révélée depuis la Genèse. Hommes et femmes, il les créa à sa ressemblance. Et puis retrouvons cette tendresse, cette noblesse, cette pudeur. Soyons les acteurs d'une réconciliation entre les genres. Alors bien sûr, on accueille aussi les richesses des autres cultures, des autres styles, des autres pays, des autres codes, tant que ça permet de voir comment on est homme ou comment on est femme et de s'épanouir dans notre genre. Dieu est glorifié lorsque nous nous assumons en tant qu'homme ou en tant que femme, libres, égaux, différents, interdépendants. Pour ceux qui sont mariés, apprenons à développer toujours davantage la réciprocité dans nos relations. Et puis prenons un instant pour actualiser notre style avec la pensée de Paul. Jugez-en vous-même. Est-ce convenable ? Est-ce que ton style reflète ton genre et la gloire de Dieu ? Et nous sommes invités à témoigner de tout cela dans notre société et retrouver, au moins, au minimum, au milieu de l'Église, pour les genres masculins et féminins, la tendresse, la pudeur, la noblesse. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, te remercions pour ta parole qui est si riche, si parlante, si actuelle. Et nous voulons te demander de venir nous permettre de comprendre ta pensée sur le masculin, sur le féminin, sur la dignité de chaque personne dans l'Église grâce à l'Évangile. Viens nous renouveler, notre Dieu. Viens nous permettre d'être bien dans nos